L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Le rouge est là, vibrant comme une mer où flottent les instruments. On s'y noie, on s'y perd. Le concert, œuvre ultime de Nicolas de Staël, inachevé, ne cède rien de son mystère. L'œuvre détonne, étonne, par sa taille, par son style, par ce rouge incandescent qui fascine. Pourquoi ce rouge? Pourquoi ce retour au figuratif? Pourquoi, comment, un homme dans la force de l'âge, au sommet de sa gloire, choisit-il de mettre fin à ses jours? D'un bout à l'autre de sa vie, du petit prince de Saint-Pétersbourg fuyant la violence de la révolution russe aux rives lumineuses de la Méditerranée, de l'enfant orphelin au peintre fou d'amour, de Staël questionne. Assoiffé d'absolu, tendu toujours vers la perfection de son art, il a vécu passionnément, désespérément, allant, venant d'un lieu à l'autre, d'une femme à l'autre, pour finir sa vie sur ce rouge chavirant, comme un point d'orgue. Je viens de vous lire la quatrième de couverture d'un livre qui vient juste de sortir aux ateliers Henri Dougier, dans la très belle collection « Le roman d'un chef-d'œuvre ». Le livre « Ce rouge incandescent » selon Nicolas de Staël. Son autrice est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Aurélia Cassignol-Ojeda.
Bonjour.
En direct de Toulouse, hein, je le précise. Aurélia, voilà. Aurélia, parlons un peu de vous. Vous êtes agrégée d'anglais, vous enseignez en classe préparatoire donc à Toulouse. Et vous êtes arrivée à... avant d'en arriver là, vous passez votre bac à Alger, puis vous poursuivez études à la faculté de Nanterre et à la Sorbonne. Angliciste de formation, votre spécialité est la littérature et plus particulièrement la littérature féminine du 19e siècle anglais. Alors avant de parler de Nicolas de Staël, d'où vous vient cette passion pour cette époque littéraire? Et rappelez peut-être les grands noms, hein, évidemment Jane Austen, les Sœurs Brontë, voilà, c'est cette période-là, Aurélia?
Et en fait, non. Les Sœurs Brontë, oui. En fait, je pense que c'est parti de l'amour de ces auteurs. Alors, j'ai travaillé sur les Sœurs Brontë, j'ai travaillé sur George Eliot et j'ai travaillé sur Elizabeth Gaskell, qui est moins connue. Et en fait, j'ai étudié la naissance du féminisme moderne dans la littérature du 19e anglais. Donc, il y avait dans cette littérature trouvé ce que disaient ces femmes, de leurs conditions, ce qu'elles montraient, de ce qui se passait à l'époque en Angleterre. Et en fait, sur ces trois, les Sœurs Brontë, elles sont déjà trois, mais il y avait les autres auteurs avaient des visions complètement différentes de la femme. Hein. George Eliot, c'était quand même elle s'appelait George, comme George Sand. Hein. Donc, elle s'appelait comme un homme. Elle avait choisi le prénom d'un homme. Les Sœurs Brontë étaient quand même des filles très, très indépendantes, très... sauvage, on a envie de dire. Hein,
et oui, plus que sauvage. À la rigueur, elle n'avait d'admiration que pour un seul homme, c'est Branwell. Hein, c'est vraiment c'est leur frère.
Oui. Voilà. voilà. Et par contre, Elizabeth Gaskell, qui a écrit une biographie de Charlotte Brontë, était une femme beaucoup plus, on a envie de dire, traditionnelle, voilà, à sa place de femme, qui ne questionnait pas trop. Quoi. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus avec grand bonheur. Mais c'est parti, bon, de cet intérêt pour le féminisme, on va dire, mais aussi pour ces auteurs, quoi.
C'est vrai qu'on oublie des fois que le féminisme avec les suffragettes, c'est né en Angleterre, hein, même si on peut aujourd'hui avoir un filtre sur les suffragettes qui était quand même très très wasp, hein, très très blanche, hein, je veux dire, c'était pas forcément.
Grand chose à voir avec ce qui se passe aujourd'hui.
Exactement.
Mais c'était c'était quand même on sentait des frémissements, enfin parce que c'est avant les suffragettes, hein, les Brontë et tout ça, et on sentait bien qu'il se passait des choses, qu'il y avait des revendications féminines. Enfin c'est très intéressant à étudier. Après, surtout qu'elles font des romans qui sont des romans, qui sont des portraits de la société. Évidemment, comme c'était des femmes, on en a parlé pour, je ne sais pas, pour le mystère, pour le romantisme des histoires, mais en fait, ce sont des romans comme les romans de Dickens, comme les romans des hommes, j'ai envie de dire, qui sont des fresques de la société de l'époque. Donc, c'est très intéressant à étudier.
Quoi. Et même dans les Hauts d'Hurlevent, le personnage, je ne sais plus, c'est Catherine, non ? Comment il s'appelle ?
Ah, bah oui, ah, oui.
Voilà. Elle est très déjà moderne, je trouve. Le personnage de Catherine est un personnage extrêmement moderne.
Oui, mais Émilie. Ah oui, Émilie, c'est la plus moderne des trois,
tout à fait. C'est la plus enflammée aussi. C'est la plus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez du film de Téchiné sur les 300 Brontës. Oui. C'était Adjani qui jouait Émilie et qui était je me souviens de grandes scènes d'ailleurs très cinématographiques où elle marche dans les landes de bruyère. C'était magnifique.
Oui,
c'est un très beau film.
C'est ça.
Alors que vos origines, excusez-moi Aurélia, mais vous êtes issu plutôt du sud. C'est-à-dire que vos grands-parents paternels sont originaires de Burgos. Et vous êtes héritière de cette partie douloureuse de l'histoire espagnole, puisque votre grand-père a été assassiné par la Guardia Civil en 1936, juste entre la guerre civile et la prise de pouvoir de Franco. Donc voilà cet intérêt pour l'Angleterre, alors que vous êtes aussi dans l'histoire espagnole. C'est important cette histoire espagnole justement pour vous ?
Ah oui, c'est très important. C'est très important parce qu'elle est pleine aussi, j'ai envie de dire malheureusement, de mystères et d'inconnus, parce que quand on a des parents qui ont vécu des choses difficiles, douloureuses, insupportables, ils n'en parlent pas à leurs enfants. Et donc, l'histoire de mon père, je la connais par morceaux. Et j'ai même envie de dire que c'est ce qui m'a poussée à écrire, en fait, pour essayer de reconstituer ce puzzle qui était la vie de mon père, comment il était parti d'Espagne, etc., parce que mon père était réfugié politique. Donc, voilà.
C'est fou ce silence, quand même. On en parle en ce moment, justement, avec tout ce qui se passe en Israël, où l'autre fois, il y avait la maman de Claude Askolovitz qui parlait, qui est encore vivante, qui était très jeune dans les camps, mais qui disait qu'elle n'en avait jamais parlé, quasiment.
Non, mais c'est comme ça. Tous les gens qui ont subi des traumatismes n'en parlent pas à leurs enfants. Et souvent, c'est la génération d'après, des petits-enfants, en fait, qui va chercher.
Qui reprend la parole, oui.
Voilà, parce que on a besoin, hein, on ne peut pas... ce que je peux raconter là, j'étais à Burgos la semaine dernière et au cimetière de Burgos. Mon grand-père a été assassiné par la Guardia Civile en 1936 et depuis, on ne sait pas où est son corps, on ne sait pas ce qui est advenu de cet homme. Et donc, l'an dernier, en 2023, en avril 2023, a été érigé au cimetière de Burgos, où il y a une fosse commune, un mémorial, voilà, aux morts de la guerre, ils appellent ça Los Muertos de la Guerra, aux morts de la guerre, et le nom de mon grand-père figure sur cette liste, dans le cadre du devoir de mémoire historique, etc., qui avait été mis en marche par Zapatero au début des années 2000. Enfin, plus de 80 ans après, mon grand-père a son nom sur une plaque et il est reconnu, sa vie est reconnue, voilà. Alors, je dis ça parce que c'est quand même des choses.
Oui, c'est important, surtout que Burgos, de mémoire, je crois que c'était la ville de Franco.
Absolument.
Ah,
oui.
C'est ça.
Il s'était installé là. Donc, les choses avancent quand même. Là, ils n'ont pas ouvert le charnier. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, en fait. Enfin, ils ont estimé.
Au moins, il y a une reconnaissance et une plaque, ce qui est déjà un premier pas.
Il y a une reconnaissance.
Aurélia.
Oui, bien sûr, c'est une part importante de mon identité, on va dire.
D'ailleurs, vous vivez à Toulouse et évidemment, on ne peut pas penser à Toulouse, parce que dans la chanson de Nougaro, est-ce que c'est parce que l'Espagne pousse un peu sa corne dans la Toulouse, hein, voilà.
Oui. Non, en fait, c'est pas du tout pour ça, parce que moi, je suis née à Paris et voilà. Mais je suis venue pour des raisons personnelles à Toulouse. Mais oui, bien sûr
C'est. Il y a une communauté.
C'est vrai que c'est une ville espagnole. Oui, c'est vrai.
Il y a une communauté espagnole très forte en plus.
Oui, c'est vrai.
Aurélie, avant d'écrire ce Rouge incandescent dont nous allons parler, vous avez publié trois romans. Et trois romans qui sont assez loin d'ailleurs de ce que du roman de Nicolas de Staël.
Oui.
C'est l'histoire compliquée de votre père, justement, qui vous a incité à écrire le premier roman. Je dis juste les titres même, Aurélia. C'est Héliodora, qui est paru en 2017, puis Ressac en 2018, enfin Les Trois Sœurs qui faisaient danser les exilés, qui est aussi aux ateliers Henri Joudy en 2020. Mais le premier, Héliodora, c'était ça, c'était votre histoire personnelle que vous aviez envie d'écrire
C'est l'histoire... C'est une reconstitution fictive de l'histoire de mon père, voilà, on va dire ça. Mais oui, vraiment, c'est vraiment ça qui m'a poussée à écrire ce roman. En fait, je peux juste raconter, mon grand-père a été tué, on est venu frapper, la Guardia Civil est venue frapper à la porte. C'est mon père qui a ouvert la porte, ils ont emmené son père à lui, et ils ne l'ont plus jamais revu. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, c'est tout ce que je savais. C'est tout ce que je savais et ce que je sais de cette histoire. D'ailleurs, parce que mes cousins, j'ai des cousins en Espagne, mais personne n'en sait plus. Et qu'il était parti en chaussons. Et donc...
Et votre père avait quel âge ? Votre père avait quel âge ?
Et mon père avait 10 ans.
Oui, donc il s'en souvient. Enfin, je ne sais pas si vous avez encore votre papa, mais il s'en souvenait quand même de cette scène.
Bien sûr, il s'en souvenait, mais il ne disait que ça. Et il ne disait pas que la souffrance, il ne disait pas le choc, il disait rien de tout ça. Il le disait comme si c'était un peu une histoire drôle. Voilà, les chaussons, il était parti en chaussons. Et donc, évidemment, en grandissant, on se dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette façon de raconter l'histoire. Et donc, voilà, c'est un peu le... Donc, j'ai écrit un roman sur... C'est une petite fille, mais il lui arrive un peu la même chose et j'essaye de comprendre, voilà. Donc j'ai trouvé une réponse qui m'a aidée à comprendre ça. Après, ma réponse est fictive.
Bien sûr. C'est aussi une façon
Mais bon.
L'écriture, la première publication 2017, Aurélia. Avant, vous écriviez déjà et vous n'aviez pas publié ou c'est venu sur le tard, je ne sais même pas d'ailleurs.
Disons que j'ai toujours un peu écrit. Bon, puis j'ai fait des études littéraires, voilà. Mais j'ai commencé à écrire réellement il y a 20 ans.
Donc c'est pas.
Il y a 20 ans, j'étais fort occupée parce que j'ai eu beaucoup d'enfants.
C'est-à-dire.
Voilà. J'ai quatre filles.
Ah oui. C'est les quatre filles d'Aurélia, quoi. C'est pas celle du docteur March.
C'est ça. Les quatre filles d'Aurélia. Et j'ai travaillé aussi. Donc voilà, j'avais pas trop de temps pour écrire.
Pour se poser à écrire. Et le genre romanesque, c'est quelque chose qui vous porte beaucoup, que vous aimez ?
J'écris un peu de tout, en fait. J'écris des nouvelles, j'écris de la poésie aussi, mais j'aime bien le roman. J'aime bien le roman. Je vais dire un peu comme Richard Ford, qui est un grand auteur américain, il dit « quand je suis paresseux, j'écris des nouvelles, et quand je suis courageux, j'écris des romans ». C'est un petit peu ça. Parce que écrire un roman, c'est quand même une grande entreprise. Ça prend plusieurs années, c'est beaucoup d'efforts.
En même temps, les nouvelles, c'est un genre qui est des fois extrêmement mal connu et mal expliqué. Il y a des gens qui écrivent des nouvelles parce qu'en fait, ils n'ont pas grand chose à dire de plus que dans une nouvelle. Et puis, il y a des gens qui écrivent des nouvelles parce que, quand je pense au roi de la nouvelle, à Borges, en Angleterre, à Patricia Highsmith, qui a créé des nouvelles absolument. Il y a des fois, c'est un exercice extrêmement difficile de mettre en 10 pages ce que les autres vont mettre justement en 200. C'est-à-dire, c'est l'art de la nouvelle. Moi, souvent, les tout jeunes auteurs que je reçois, la nouvelle, oui, mais la nouvelle, parce que tu as parce que t'as pas cherché à épaissir. C'est justement ce que vous disiez. Passer de la nouvelle au roman, c'est des fois aller chercher plus loin.
Oui, c'est des fois, mais difficile. En même temps, c'est-à-dire que la nouvelle, c'est plus condensé, et puis ça laisse plus d'implicite aussi. Donc, ça demande, de la part du lecteur, peut-être un peu plus d'effort, parce qu'on ne lui raconte pas tout, quoi.
Exactement.
Donc, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup les écrire, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien l'implicite. J'aime beaucoup les écrire. Mais je pars, mes nouvelles partent sur des émotions, en fait. Mm-hmm. Donc, comme toujours, de toute façon, même les romans, mais enfin, la nouvelle, c'est vraiment, voilà, une émotion. Le roman, ça se mélange, il y a beaucoup plus de choses qui font partie du récit, tout ça, il y a toute une construction. La nouvelle, la construction, elle est plus simple.
On va marquer notre première pause musicale, Aurélia, avec que vous avez choisi pour nous. Évidemment, c'est un rapport immédiat avec le texte dont on va parler par la suite. C'est Schoenberg, La nuit transfigurée. On écoute et puis après, vous nous expliquez pourquoi ce choix. Et vous êtes toujours sur Radio FM Plus dans Aéropage avec Aurélia Cassignol, Ojeda, et on parle de Nicolas de Staël. On vient d'écouter La nuit transfigurée de Schoenberg. Il y a un choix précis, il y a une raison précise par contre, pardon, pour ce choix, Aurélia. Vous nous l'expliquez ?
Oui. c'est très simple déjà parce que c'est cette musique de Schoenberg et Webern. Et la musique que Nicolas de Staël est allé écouter au Théâtre Marigny à Paris quelques jours avant de se donner la mort et surtout quelques jours avant de commencer ce dernier tableau, le concert. Donc en fait, c'est cette musique qui lui a inspiré ce dernier tableau et qui a abouti.
Il en est sorti totalement bouleversé de ce concert.
Il en est, absolument, évidemment.
Transfiguré presque.
Des notes. Mmh. Oui, et pendant le concert, il prenait des notes, il faisait des dessins de représentation en fait de ce concert, parce que le concert c'est quand même un tableau figuratif. Donc il prenait des notes picturales quoi sur ce concert. Et ce que l'on peut dire aussi, enfin moi je trouve à l'écouter, déjà Schoenberg c'est un contemporain plus ou moins de, à peu près contemporain de Stahl, et c'est un homme qui, en tant que musicien, a cherché à sortir de la musique classique traditionnelle, et on l'entend bien, hein, on commence à rentrer dans la musique sérielle, etc. Et donc, il y a des petites dissonances sans vraiment l'être. Enfin, on sent cette même hésitation que l'on peut sentir dans la peinture de Stahl entre le figuratif et l'abstrait, etc. Et cette espèce de comment dire, on a l'impression qu'ils ont cherché une cohérence impossible et ces hésitations de s'aventurer dans des domaines différents, quoi, d'inventer, en fait. Et
c'est vrai que c'est vraiment des générations d'artistes qu'on fait un pont. Alors, évidemment, vous parliez entre la musique fin du 19e, début 20e, encore extrêmement mélodique, et Boulez, et la musique sérielle. Et en peinture, c'est la même chose. C'est aussi une génération des derniers figuratifs, avec évidemment les maîtres de l'impressionnisme. Et puis, il y en a un qu'on voit extrêmement voyager comme ça, c'est Malevitch, le peintre russe. Et d'autant plus, puisque bon, Nicolas de Stahl est russe et vous allez longuement nous en parler, mais pour ces pays qui ont vécu aussi des cassures politiques.
Oui, bien sûr, oui. Ah ben oui, mais de toute façon, l'art traduit toujours des événements de la vie sociale, politique, voilà, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les Brontë. Hein, je veux dire, c'est donc oui, bien sûr. Et c'est cette envie de traduire le traumatisme intérieur dans leur art, quoi. Et je trouve que vraiment, on sent bien dans Schoenberg la même douleur, la même difficulté que chez de Stahl, quoi. C'est très intéressant.
On va tourner les pages du
livre. Pardon. Aussi.
Et tout à fait.
Pardon.
On va tourner les pages du livre maintenant, Aurélia. Et le livre s'ouvre à Antibes sur un court chapitre. Hein, de toute façon, c'est le concept de la collection. Je rappelle, hein, c'est une centaine de pages avec des courts chapitres et où on place la vie d'une œuvre et la vie d'un artiste dans un romanesque. Et là, ça s'ouvre donc par une scène extrêmement violente. Et votre écriture, d'ailleurs, est violente à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire que c'est des phrases extrêmement courtes. Là, on n'est pas dans la description. Hein, c'est voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, jusqu'à la défenestration, enfin la mort de Nicolas de Stahl. Et c'est dans ce premier chapitre que j'aimerais lire, pour nos auditeurs, pour camper la personnalité de cet homme qui est extrêmement grand, 1m92 ou 16, je ne me rappelle plus, avec René Char, ils sont tous les deux très grands. Mais voilà, je lis ce passage-là. « Toute la journée, il s'est battu avec une toile. Elle est géante et rouge. Il est géant et gris, ivre de désespoir. De temps à autre, il se lève, fait quelques pas, fauve en cage. Sa haute silhouette semble prendre alors toute la place. » Il a cette chemise blanche et ample qu'on lui connaît, au col ouvert, aux manches roulées sur ses avant-bras, ce pantalon flottant et sombre, cette beauté étrange et violente qui ne l'a jamais quitté. Il est jeune encore, ses traits sont creusés, ses paupières livides, ses cheveux sont en désordre, ses mains puissantes, tachées de sang, la couleur inscrite dans les plis de sa peau et sous ses ongles. Toute la nuit, il a travaillé, et sans arrêt depuis 3 jours. Dans sa tête, tant de choses. Dans sa tête, le chaos. Tout se presse et se mélange. Dans sa tête, le vertige. Un homme en feu. Un homme en feu, comme ce rouge incandescent de la toile qu'il est en train de peindre, Aurélia. Cet homme en feu, vous y êtes attachée dès que vous y êtes intéressée ?
Oui, c'est un vieil amour, j'ai envie de dire. Ça fait bien longtemps que j'ai découvert, en fait, ce concert à Antibes, parce que franchement, je conseille à tous les auditeurs d'aller au musée de Jean Lépin d'Antibes et d'aller voir cette toile, parce qu'elle est magnifiquement exposée. C'est d'ailleurs l'objet du deuxième chapitre. Mmh. Et elle est magnifiquement exposée. Et c'est vrai que à la sortie, quand j'ai été voir cette toile, il y a plus de 20 ans, j'ai acheté la biographie de Nicolas de Stahl, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui m'a complètement interpellée. Et la biographie Le Prince Foudroyé, que je conseille aussi de lire, c'est une très belle biographie, de Laurent Grailsheimer, qui vient de décéder d'ailleurs récemment. Et donc, oui, j'ai été assez passionnée par ce personnage.
C'est en voyant l'œuvre en Tibes, je voulais en parler juste après, mais c'est bien d'en parler maintenant. C'est en voyant l'œuvre, oui, le choc amoureux que vous avez eu devant cette œuvre, que vous avez eu envie d'en savoir plus sur l'artiste.
Oui, oui, absolument, d'accord. Absolument, parce que c'est quand même une œuvre qui interroge cette espèce de grande mer rouge, et ces instruments qui flottent comme ça, c'est vraiment très fort. Hein. Il y a un choc émotionnel, esthétique qui sont très forts, quoi. Donc, oui,
extrêmement contemporain et pourtant encore figuratif, parce que on voit parfaitement, on identifie parfaitement les trois axes du.
Oui, absolument.
Hein, voilà, il y a ce rouge qui est violent, mais qui soutient le piano, les partitions. Avec ce que vous dites, j'ai beaucoup aimé le terme et vous le reprenez une ou deux fois, deux ou trois fois même dans le livre, c'est partitions crémeuses, hein, cette couleur crémeuse.
Oui, blanc crémeux.
Voilà,
oui,
blanc crémeux. Et puis cette contrebasse qui vomit presque hein, sur le bas de la, la toile. Peut-être on pourrait aussi parler à ce moment-là de qui était, si vous pouvez nous en parler, qui était Nicolas de Staël, parce qu'on ne peut pas comprendre son œuvre sans comprendre de cette vie, de cet enfant qui naît dans une famille bourgeoise et qui naît quelque part au mauvais moment, on va dire. Hein.
Oui, ah ben, qui naît même dans une famille aristocratique, il était baron de Staël, hein, von Holstein. Donc, il est né, baron, et donc dans la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg, puisque son père était dirigé cette forteresse, c'est militaire. Et donc, ils ont dû fuir, la famille a dû fuir au moment de la Révolution russe. Nicolas avait 4 ans, et ensuite, ils se sont installés après un périple douloureux au cours duquel, de plusieurs années, ils se sont installés en Pologne, et au cours de ce périple, donc, qui a fini en Belgique, il a perdu son père, et après, sa mère, d'un cancer du sein.
Père qui est devenu totalement dépressif avec l'arrivée des bolcheviques. Vraiment, qui est tombé. Voilà, d'ailleurs, en lisant le livre, j'ai compris aussi qu'il toute la vie dans la forteresse, là, c'est assez spécial à Saint-Pétersbourg, cette forteresse qui est sur la rivière, hein, qui est vraiment enfermée c'est formidable. Maintenant, j'étais voir avec Google Maps pour tout vous dire. Voilà. Mais comment elle était hein,
C'est fermé.
Qui est un symbole du pouvoir des tsars de l'époque. Et en définitive, le père ne s'en remettra jamais. Quoi. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une mélancolie. Par contre, la mère, elle est tendre, cette mère. Hein. D'abord, c'est un deuxième mariage.
Oui. Hein. Mère jeune, alors que le père est vieux.
Voilà.
Pour l'époque, c'était un père vieux, puisqu'il avait des frères qui sont morts dans d'autres guerres précédentes, qui avaient 20 ans quoi, de plus que lui, en fait.
D'ailleurs, les deux frères aînés de Staël qui vont mourir, hein,
c'est une famille marquée par le malheur. Enfin, on peut pas dire autre chose, quoi. L'exil, la mort, la maladie, tout ça, il vit ça avant 10 ans, quoi. Donc, c'est pas des enfants ce qui laisse indemne quand même. Hein.
Et puis après, il y a la période en Belgique. Hein, je vous ai interrompu, excusez-moi Aurélie, au moment où vous parliez de la Belgique. C'est une période importante, là, parce qu'il va vivre dans une famille re-aimante.
Voilà. Oui, il est récupéré par une famille de Belges, donc qui s'appelle Frisero, qui doit avoir quelques origines italiennes quelque part, qui s'appelle Frisero et qui donc qui avait un lien un peu compliqué avec la Russie et qui était riche et qui accueillait des petits Russes blancs en fait, qui payaient leurs études, etc., etc. Donc, il a été quand même entouré, on va dire. Il était avec son frère et sa sœur. Donc, il a eu un entourage affectif, etc. Mais je pense que... voilà, il a jamais retrouvé, il s'est jamais trouvé à sa place, puisque il est parti dès qu'il a pu, en fait, dès qu'il a eu son bac en poche.
Il est parti à 18 ans, il les a quittés à 18 ans.
Il a eu difficilement, parce que je pense que c'était un fort caractère, rebelle, il est parti au Maroc, il est parti en Espagne, et il l'écrit, hein, je sais que ma vie sera un long voyage, etc. Enfin, je veux dire, il sait bien qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse à aller à chercher autre chose, voilà.
Et surtout que bon, je l'ai pas précisé, mais la première scène, donc il a 41 ans hein, quand il suicide. Donc
il a 41 ans.
Entre les 20 ans où il veut quitter la Belgique et puis les 20 ans qui vont suivre, il va tellement se passer de choses dans sa vie. Et vous parliez de l'Espagne, donc quand il va voyager en Espagne, vous expliquez bien qu'il a un coup de foudre pour Velázquez, moins pour Goya, pour Velázquez. Oui. Ça vous a touché justement cet amour de l'Espagne qu'il a eu, vous qui êtes d'origine espagnole?
Oui, mais c'est sûr que c'est touchant parce qu'en plus, il saisit bien... évidemment, avec sa sensibilité, il saisit bien l'âme espagnole, quoi. Il comprend bien la passion, la force, cette espèce d'intensité qu'a l'Espagne, quoi. Ça lui plaît bien. Il y a un truc fort comme ça qui lui répond, quoi. Donc ça.
D'ailleurs, cet homme du Nord, il a une vraie passion pour la Méditerranée. Puisque bon, il va y avoir, on va en parler, mais tout un voyage en Sicile. C'est peut-être par amour de la Méditerranée, vous pensez qu'il a envie de s'installer dans le Sud ?
De la lumière.
Ouais.
Mais ce qu'on n'a pas dit sur la forteresse Pierre et Paul, c'est que, comme elle est à l'estuaire, il y a de la lumière, il y a une très belle lumière. Donc je pense que il est peintre, hein, donc il est très sensible à la lumière et la lumière de la Méditerranée. Surtout, il est parti au Maroc aussi, donc on a une lumière qu'on n'a pas dans nos pays, hein, c'est évident. Hein.
Et donc, à un moment, il décide de s'installer tardivement, puisqu'il meurt en 55 et il s'installe en 52, hein, donc il y a très peu d'années, mais sur les rives dans le sud.
À Ménerbe. En Provence, où on retrouve une lumière qui, effectivement, est une lumière méditerranéenne.
Et c'est l'occasion pour nous d'échanger sur ce grand ami hein, qui va partager sa vie pendant un bon bout de temps, qui est René Char. Et en préparant l'émission, on parlait des échanges épistolaires entre les deux. Moi, je ne connaissais pas ceux-là. Hein, je vais me renseigner, je vais les lire. Mais je connaissais ceux entre René Char et Camus, qui étaient déjà très tendres et très fraternels. Ça vous a beaucoup touché aussi, cette amitié?
Mais oui, c'est très touchant parce qu'en fait, c'est une amitié assez fulgurante, un petit peu comme un coup de foudre. Parce que dès qu'ils se rencontrent, ils s'aiment, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai, ils s'aiment. Et on sent bien à travers les lettres toute la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre, la compréhension, la complicité, parce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé ensemble, ils ont créé ensemble. Et c'est très touchant de voir ces deux géants, se parler. En baissant toutes la garde, quoi. Ils sont vraiment à cœur nu, quoi.
Et ça, avec des petites choses du quotidien.
Avec des petites choses du quotidien. Des petites choses du quotidien et vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse.
Et pourtant, Nicolas n'hésitera pas à fragiliser hein, cette amitié à cause d'une femme.
Ah bah oui. Ah bah oui, c'est-à-dire c'est René Char qui attire Nicolas de Staël en Provence, donc il s'installe là grâce à lui, on va dire, on va pas dire à cause de lui, parce que c'est quand même grâce à lui, parce qu'il a quand même, ça lui a permis de changer complètement sa peinture, hein, de venir s'installer en Provence, et c'est lui aussi qui lui présente Jeanne Polge, qui a été la maîtresse de René Char. Et dont Nicolas tombe éperdument amoureux. Dans le livre, je me pose la question parfois, est-ce que c'est un ami qui vous veut du bien ou un ami qui vous veut du mal, je ne sais pas. Mais effectivement, cette rencontre avec Jeanne Polge l'a précipité vers sa fin, malheureusement. Hein.
Un amour fou. Et c'est pareil, en préparant l'émission, on parlait dans les milieux intellectuels de la liberté aussi de mœurs. Enfin, quand je pense à la femme de... Comment de... Je dirais ton nom, Liberté. Éluard, hein, la femme d'Éluard qui s'est qui s'est baladée d'homme en homme, évidemment.
Nuche.
Voilà, mais c'était extrêmement fréquent, hein. Je veux dire, Nuche avait été avec elle, et elle était avec le peintre japonais aussi qui vivait dans tout ce milieu-là, tout le milieu des surréalistes. Ouais. On s'échangeait assez facilement les dames.
Les femmes. Ouais. Oh, c'était un peu la même chose à l'époque des pré-raphaélites, au début du 19e,
oui,
en Angleterre. Oui,
tout à fait.
C'était toujours la même femme qui était peinte et elle changeait de lit allègrement. Donc, oui, il y a cette licence
qui est étonnante.
Des artistes.
Et qui est déjà moderne, même si en définitive, très peu sortent vraiment en étant très autonomes. Même Kiki, c'est quand même la créature de Man Ray, quoi. Donc, si elle est libre, c'est pas aussi simple que ça n'a peut avoir l'air. Quand il commence à devenir célèbre, à quel âge il a commencé à être reconnu, à être célèbre? À pouvoir en vivre,
dans les années 50, au début, au tournant des années 50, quand il est remarqué par ce marchand de tableaux américain, new-yorkais, Rosenberg, qui lui achète ses tableaux et qui les vend. Et fait, effectivement, qui les vend et qui en vend et qui en vend trop, même d'après Nicolas de Staël, qui lui dit qu'il ne veut plus, qu'il se sent. J'ai eu l'impression quand même qu'il se sentait un peu dépossédé de son œuvre. Il lui disait qu'il ne voulait pas peindre aussi vite, quoi. Mmh. Il envoyait des tableaux dont la peinture, parce qu'à l'époque, quand ça a commencé, il peignait encore avec une épaisseur de peinture considérable, où la peinture n'avait pas fini de sécher, ça ne lui plaisait pas. Enfin, il ne voulait pas faire comme ça.
D'ailleurs, il y a eu plus de 1000 œuvres.
Oh oui, il y a beaucoup d'œuvres. Mmh. Ben, il travaillait tout le temps. Et donc, il commence au tournant des années 50, c'est-à-dire qu'il n'a pas résisté. On peut dire aussi que, comme ça, qu'il n'a pas résisté longtemps à la richesse. Mmh. Ça ne lui allait pas. Ça lui a permis néanmoins d'acheter ce château de Ménerbe, qui est encore la propriété de la famille, et où il a pu installer sa famille, parce que jusque-là, ils n'avaient pas d'argent.
Il y a une phrase que vous dites d'ailleurs que j'ai notée, c'est quand vient la célébrité, justement. Il dit comme Camus, vivre comme un pauvre avec beaucoup d'argent.
Oui.
Rapport à l'argent. Et comme Camus, d'ailleurs, et comme beaucoup de ces gens qui sont pauvres et qui tout d'un coup se sont reconnus, même le peintre russe là, qui avait des punaises dans les oreilles, qui a fait tous les écorchés, le bœuf écorché.
Oui.
Le nom me perd. C'est une des premières choses, c'est de mettre la famille aux besoins. C'est vraiment primordial pour eux.
Oui, c'est ça, Camus aussi. Mais ce qui est, chez Camus, on peut comprendre qu'il cet appel à la pauvreté, parce qu'il est né pauvre. Mm. C'est le cas de Nicolas de Staël. Il est né riche. Il est né riche. Donc, sa mère était d'une famille riche. Son père était militaire, était noble. Enfin, donc, il est né riche, mais visiblement, il a trouvé quelque chose. Quand il est parti au Maroc, ce premier voyage à 20 ans, il a trouvé quelque chose dans la pauvreté, dans l'aridité. Il s'est trouvé, quoi.
Il y a aussi un passage de livre qui est formidable, c'est quand vous citez Genevoix. C'est pour essayer de montrer aux auditeurs le portrait, de faire le portrait de Nicolas. Je cite votre livre et Maurice Genevoix qui fait un portrait. L'homme qui nous accueillit, en dépit d'une courtoisie et d'une affabilité parfaite, ne cessa tout le temps de notre visite de me paraître lointain, distant. D'assez haute taille, le visage allongé et strictement glabre, le regard aigu et direct, attentif à ses devoirs d'autres, spontané et même confiant, il me semblait pourtant, et tandis qu'il nous parlait, se retirer dans un monde intérieur, une obsession plus forte que son extrême bonne volonté. Attiré, tiré ailleurs, vivant au-delà de la vie temporelle alors qu'il la vivait. C'est formidable ce texte de Genevoix, je trouve, de perception de l'autre qui, tout en étant bien éduqué, puisqu'il avait eu cette éducation, était ailleurs.
Oui, mais t'es ailleurs. C'est le cas de beaucoup d'artistes qui vivent dans leur monde intérieur, en fait.
D'ailleurs, donc, on en parlait aussi en préparant, c'est ce qui, et avant de marquer notre deuxième pause musicale, c'est ce que j'aimerais aborder très vite avec vous, hein, ça serait des heures, mais voilà cette façon d'être ailleurs, on en parlait encore en préparant l'émission, mais de ces traumatismes d'enfance, de cette urgence, de ces personnalités hors normes qui amènent beaucoup de peintres au suicide, hein, comme Nicolas de Staël, je pense à Pascal, ouais. Je pense à Buffet, Rodko, Van Gogh, et même plus vieux, Gros. Hein, qui s'est suicidé aussi. Et Millet, j'ai trouvé une phrase de Millet que je trouve belle et que j'avais envie de citer. « Je ne veux point supprimer la souffrance, car souvent c'est elle qui fait s'exprimer les plus énergiquement les artistes.
»
Voilà, je trouve que Millet, derrière ses allures de peintre, on le réduit trop souvent à l'Angélus. C'est un peintre formidable, Millet. Et c'est vrai que ce regard qu'il a, est-ce que ce n'est pas dans la souffrance que Nicolas de Staël a pu tirer aussi ce génie de la peinture ?
Ah ben il le dit, il l'écrit. Quand il est dans les affres de l'amour là avec cette jeune femme Jeanne Polge, il lui dit tu me fais souffrir énormément, mais en même temps c'est ce qui fait avancer mon art. Donc il l'aime aussi pour ça. Il l'aime aussi parce que cette souffrance lui permet de trouver autre chose dans son art. Donc c'est très compliqué en fait. C'est un cercle. Douloureux mais bénéfique.
Après,
c'est très paradoxal.
Après, il faut souligner quand même, parce qu'on ne va pas plomber, hein, que le livre est truculent. mais qu'il y a plein de choses. Par exemple, il y a tout le voyage en Sicile, dans une camionnette, avec femmes, enfants, etc. Voilà, vous en faites quelqu'un qui est aussi très implanté dans le quotidien et avec plein de scènes qui sont truculentes, qui sont drôles. Voilà, il faut quand même le souligner, parce que sinon, on va penser que...
Voilà. Mais je pense que... Il avait des moments de grande joie. C'est un homme extrême. Donc, il devait avoir des moments de désespoir, mais peut-être les gardait-il pour sa peinture. Et il avait des moments de grande joie et beaucoup de vie, une grande vitalité, une grande force. De toute façon, il est, physiquement, c'est un homme athlétique. Hein, donc, c'est un nageur aussi. Mmh. Ça aussi, ça m'a beaucoup touchée. Parce que moi aussi, je suis nageuse. Et donc, c'est un nageur. Donc, il y a cette... Il aime s'éprouver, voilà. Donc, il a beaucoup d'énergie, hein, donc ça s'exprime aussi de façon positive.
C'est aussi un grand amoureux, hein, je dirais, un infidèle, un infidèle comme pouvait l'être Camus, mais en même temps, quand il aime Jeannine, sa première femme, il l'aime absolument. Oui. Et même Françoise, qui est dans l'ombre de Jeannine, hein, puisqu'elle s'occupait des enfants, il l'aime absolument aussi. Et quand il la trompe ouvertement avec Jeanne, il lui écrit et il lui est fidèle sentimentalement jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est ces hommes. Ces hommes qui sont quand même une tendresse, je trouve. Dingue.
Oui, et d'une générosité, de grande générosité. Il a beaucoup à donner, en fait.
Qui est moins forte chez Picasso. Hein. On en a parlé un petit peu, mais qui est un peu moins forte chez Picasso.
Oui, Picasso, je ne sais pas s'il était d'une grande tendresse.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Aurélia, il ne vous manque plus qu'à écrire sur Picasso maintenant, hein, dans le roman d'un chef-d'œuvre. On va poser notre deuxième pause musicale avec Kostakovitch, donc symphonie numéro 5. C'est aussi un choix vis-à-vis de Nicolas de Staël ou c'est un choix vous personnellement parce que vous aimez
pas ? Non, c'est aussi Nicolas parce que je trouve. Alors là, vous allez entendre, c'est complètement différent, mais il y a cette violence et cette énergie ben justement dont on parlait qui est très. Je sais pas, je trouve que ça résonne bien avec la musique avec la peinture de Staël. Il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de joie et de difficulté. Enfin, c'est des choses qui sont, voilà, ce paradoxe est bien exprimé et je trouve que ça accompagne bien la peinture de Staël.
Mais ben on écoute et puis c'est vrai que Kostakovitch a été lui-même un musicien officiel, il a vécu lui sous le stalinisme cet écartèlement, il l'a vécu lui dans sa création.
Bien sûr.
On écoute et on se retrouve.
Il était aussi un contemporain, voilà.
Tout à fait. Oui. On écoute Aurélia et on se retrouve pour les quelques mots de la fin. Thank you.
Parce que j'ai des choses à dire.
On vient d'écouter donc Kostakovitch, la symphonie numéro 5. Aurélia, vous êtes toujours sur Radio FM+, dans Aéropage. Il nous reste 3-4 minutes pour finir notre rencontre. J'aimerais d'abord savoir si vous êtes sur un autre sujet en ce moment. Si vous écrivez en ce moment.
En ce moment, j'ai un roman qui va sortir.
D'accord.
Donc, j'ai retravaillé ce roman pour pouvoir l'éditer. Et j'ai un autre texte là qui est déjà écrit et que je dois retravailler. C'est toujours l'Espagne, hein, mm-hmm. De façon différente, mais c'est quand même en lien avec l'Espagne. Et voilà, sinon j'écris des poèmes au jour le jour. Et voilà, les nouvelles en ce moment, j'en écris pas.
D'accord. Enfin, vous êtes en période de créativité, voilà. Ça vous lâche plus maintenant l'écriture.
Ah ben oui. Maintenant j'écris, oui. Maintenant j'écris, ça me tient grandement compagnie.
Et puis pour terminer, bien sûr, on ne peut pas parler de Nicolas de Staël sans parler de l'exposition qui a lieu depuis le 15 septembre et jusqu'au 21 janvier, donc au Musée d'Art Moderne de Paris, qui consacre donc une grande rétrospective à Nicolas de Staël, figure incontournable bien sûr de la scène artistique comme on vient de le voir. Vous avez un mot à dire sur ce... Sur l'expo, vous l'avez vu déjà ? Vous êtes montée à Paris pour la voir ?
Oui, mm-hmm. oui, je l'ai vu. Avec un peu trop de monde, je dois dire. Mais c'est une très belle exposition, en ce sens que c'est une rétrospective et que c'est assez rare. Mm-hmm. Et donc, on comprend bien l'évolution du travail de Nicolas de Staël. Et il y a notamment un autre tableau représentant un orchestre qui s'appelle l'orchestre, cette fois-ci, et pas le concert. Et c'est intéressant pour les gens qui iront voir de comparer les deux, parce que l'autre, le premier, l'orchestre, il est dans des couleurs diaphanes. C'est une espèce d'interprétation un peu mystique, voilà, de l'orchestre et la musique. On distingue pas trop... les éléments, voilà, de l'orchestre, et c'est un contraste absolu avec ce concert rouge qu'il fait à la fin de sa vie. Donc, enfin, il y a des très belles œuvres, c'est une très belle exposition.
Le concert n'y est pas dedans, Aurélia.
Mais non, il est juste, il est Antibes. En photo à la fin, mais il est à Antibes. Je ne le sais pas, mais j'imagine qu'il ne se déplace pas d'Antibes.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut dire quand même que le format est de 3 mètres sur 6. J'ai oublié de le dire, ça ne se déplace pas comme ça.
Voilà, ce que je voulais dire quand même aux auditeurs, c'est qu'ils n'hésitent pas à s'approcher des œuvres et regarder de près, parce que c'est là que l'on sent toutes les hésitations, tout le travail du peintre, et c'est vraiment très très beau, très très émouvant, parce qu'on voit toutes les épaisseurs, ce qui n'est pas toujours le cas hein, en peinture quand même, on voit bien toutes les épaisseurs, comme il passe et repasse et hésite, et puis d'un coup il dit mais oui c'est ça, donc j'y vais, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein, c'est la tension entre la fulgurance et l'hésitation, et c'est vraiment ce qu'on sent dans ces toiles, mais il faut s'approcher, parce que si on regarde de loin, ce qui est tentant, parce que comme ce sont des grands aplats de couleurs, on peut se dire ça va, j'ai compris, mais non. En fait, quand on s'approche, on comprend ce qui se passe sur la toile, et c'est vraiment très beau.
C'est sur ce conseil d'Aurélia Cassignol-Ojeda qu'on se quitte. Merci beaucoup Aurélia pour cette rencontre donc autour du rouge incandescent selon Nicolas de Staël.
Avec plaisir. Hein,
aux éditions bien sûr des ateliers Henri Dougier, et petit conseil aux auditeurs, si vous voulez gagner le livre, à chaque fois les ateliers nous en offrent un exemplaire à gagner pour les auditeurs. Merci beaucoup, un petit mot sur les réseaux sociaux et j'aurai le plaisir de vous l'offrir. Merci Aurélia et à très bientôt. Au revoir,
bonne journée.
Merci.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.